Bonjour mes frères et sœurs, on est le dimanche 9 août et je voudrais commencer notre culte par une lecture des Saintes Écritures dans Matthieu chapitre 7 et verset 12, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, verset 12. Alors, je le cherche et je le trouve. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ça, c'est une parole de Jésus. Seigneur, je te prie de me donner l'intelligence pour pouvoir bien faire passer ce que j'ai à dire de ta part, pour que mes frères et sœurs soient enrichis spirituellement, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Alors, ce que Jésus dit là a plusieurs significations, et la première concerne surtout notre être intérieur. Comme vous souhaitez que les gens pensent à votre égard, pensez aussi à leur égard, parce qu'on ne peut pas faire aux autres des choses qu'on n'a pas pensées d'abord. Comme vous souhaitez que les gens fassent, agissent envers vous, faites et agissez envers eux. Vous avez bien compris, il faut préméditer nos actions, il faut penser nos actions, penser, faire ce que... ou alors prendre l'habitude de penser bien afin de pouvoir agir vite dans les circonstances qui sont parfois surprenantes. Alors, ne soyez pas poli, par exemple, et courtois avec les gens en face, par devant, et en vous, être plein de critiques et de ressentiments envers eux. Parce que ça, là, vous vous faites du mal à vous. Si vous faites comme ça... si vous avez des pensées comme ça, ces pensées, vous, seront néfastes. C'est comme si vous absorbiez du poison, en fait. C'est pourquoi l'hypocrisie, c'est pas bon. En réalité, vous absorbez un poison mental qui vous enlève votre enthousiasme, qui vous aigrit, qui vous coupe vos forces et votre, même votre bonne volonté. Ces pensées, elles vont s'enfoncer au plus profond de vous, de votre être, et elles vont être la cause, ou sont peut-être déjà la cause de vos difficultés et de vos maladies, comme je vous l'ai enseigné ces derniers temps. Vous savez que les pensées qu'on entretient ont tendance à se matérialiser, à devenir des réalités dans la vie de tous les jours. Cette réalité est d'autant plus vraie, mes frères et sœurs, quand vous avez de mauvaises pensées envers les chrétiens, envers vos frères et sœurs. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 27 et 31. C'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit qu'il a reçu cela du Seigneur. Verset 27, je commence. Enfin, déjà, on peut dire 26, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre même sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voyez ? Terrible, terrible. Donc, il ne nous dit pas qu'il faut qu'on s'éprouve soi-même, qu'on se juge soi-même, et puis qu'on se dise « non, je suis indigne de prendre la Sainte Cène ». Non, il faut qu'on se juge, qu'on prononce le verdict, disant « c'est vrai, je suis coupable, je m'en repens, et je crois que Jésus, mon avocat, a tout fait pour que je sois pardonné ». Ça, c'est ce qu'on doit faire quand on prend la Sainte Cène, mais surtout pas juger les frères et sœurs, parce que discerner le corps de Christ, ça veut dire quoi? Alors, vous aviez, je me rappelle, c'était dans une église À Paris, il y avait deux grands-mères qui se chipotaient au fond de l'église, et alors le pasteur est allé vers elles pour leur demander « Mais pourquoi vous vous chicanez comme ça ?» Alors une, elle a dit « J'ai eu une vision de Jésus, il est brun. » Et l'autre disait « Non, non, j'ai eu une vision de Jésus, il est blond. » Alors elle se chipotait pour ça. Elle disait « Mais moi j'ai discerné le vrai corps de Christ. » Alors non, discerner le corps de Christ, c'est pas ça. Discerner le corps de Christ, c'est discerner que Jésus vit dans votre frère, dans votre sœur, même si votre frère et votre sœur n'est pas parfait. Qui est parfait? Alors, prendre indignement, boire indignement le pain, ou boire la coupe indignement, ça nous rend coupables envers le corps de Christ, c'est-à-dire son Église, et son sang, c'est-à-dire sa vie. Alors on doit s'éprouver soi-même, se juger soi-même, et ainsi, après avoir fait ce jugement sur soi-même, prendre la coupe et prendre le pain. Mais celui qui mange et qui boit la coupe sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire qui regarde un frère qui est en train de prendre la coupe et qui dit « Ben dis donc, celui-là, il est culotté de prendre la coupe alors qu'il est pécheur, que je sais que c'est... » Jésus dit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Et Dieu châtie ceux qui prennent le pain et le vin d'une façon indigne, c'est-à-dire en jugeant les autres. Je le redis un peu autrement, lorsque vous prenez le pain et le vin, le corps et le sang de Christ, si vous ne discernez pas, si vous ne croyez pas que Christ vit dans votre frère et votre sœur, qui seront tous imparfaits, si vous ne croyez pas qu'il ou elle fait partie du corps de Christ, si vous ne discernez pas qu'il fait partie du corps de Christ, qu'il est un membre du corps de Christ, eh bien, si vous faites cela, si vous le jugez ou si vous la jugez, vous vous attirez un jugement sur vous-même. Et Paul dit qu'à cause de cela, il y a toutes sortes de malheurs qui arrivent dans l'Église et qui ne devraient pas arriver. Il dit que si vous vous jugez vous-même au lieu de juger les autres, vous ne tomberiez pas sous le jugement de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Si vous avez un différend avec un frère ou avec une sœur, qu'est-ce que dit Jésus ? Ben d'aller lui parler. Ensuite, d'aller parler, s'il ne vous écoute pas, vous parlez avec d'autres frères et sœurs, avec votre pasteur, je ne sais pas, avec des anciens. Et puis ensuite, s'il ne vous écoute toujours pas, il faut en parler à l'Église. Parce que il ne nous est pas donné le pouvoir, en tant que simple chrétien, de juger et de poser un verdict. Ça, c'est le rôle des serviteurs de Dieu et de l'Église. Ce n'est pas votre rôle. On va lire ça dans Matthieu 18. Matthieu 18, 15-17. Je dis ça parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi j'ai des problèmes comme ça, mais qu'est-ce qui m'arrive, enfin bon, et puis alors ils ont oublié qu'ils ont pris la Sainte Cène indignement. Matthieu 18, 15, alors j'y suis, Matthieu 18, 15, « Si ton frère a péché, ou ta sœur, hein, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, ta sœur. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Ah. Vous voyez, il y a un ordre établi. L'autre jour, je vous parlais de l'ordre établi par Dieu. Et ça, c'est un point d'ordre dans l'Église qu'il ne faut pas mépriser. Chaque membre de l'Église doit pratiquer cela. Et l'Église est malade, alors, actuellement, à cause des non-dits, de l'hypocrisie, des médisances. Et tout ce petit monde se nourrit du corps et du sang de Jésus-Christ indignement. Blablabla, t'as vu la sœur, elle va pas dire bonjour, et regarde la coupe qu'elle a. Oui, bonjour sœur, comment allez-vous? Que le Seigneur vous bénisse. Oh là 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 là. T'as vu comment qu'elle est? On connaît tout ça. Et voilà une des raisons principales des malheurs dans l'Église, dans les membres de l'Église. Mais comme beaucoup de membres souffrent, beaucoup de membres sont malades dans l'Église à cause de ça, eh bien ça infeste l'Église et l'Église est malade, elle a besoin de rétablissement. C'est pourquoi Jésus dit que à la fin, il rétablira toute chose, il guérira toute chose, il remettra de l'ordre dans toute chose. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. On va y venir. J'espère que ça, là, c'est clair. Ce n'est pas pour... C'est pas à nous de poser un jugement sur un chrétien, c'est à l'Église de juger toute chose. Maintenant, si vous voyez évidemment quelqu'un qui pêche, vous allez le trouver, vous allez parler avec lui ou avec elle sans faire un scandale, mais c'est au cas où il ne veut pas, et vous écoutez, à ce moment-là, c'est l'affaire de l'Église. Et mes frères et sœurs, c'est la même chose avec le monde. Vous me direz, ah bon? Ce n'est pas à nous de nous faire justice. Il y a des gens qui ont été mandatés par Dieu pour le faire. On va lire un verset qui énerve beaucoup de chrétiens, c'est Romains chapitre 13, versets 2 à 5. On peut commencer par le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Waouh! C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Nous nous sommes engagés à marcher avec Dieu en toute bonne conscience. Alors c'est vrai que quand on regarde le monde, on a tendance à se dire ils sont tous pourris, donc voilà, je ne veux pas être soumis, je suis un insoumis. Eh ben on a tort. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Ne vous permettez pas de penser comme le monde qui dit que les autorités officielles sont corrompues. Ils ont souvent raison, c'est vrai, mais les gens qui ont été mandatés par Dieu, les gens qui ont été mis en place par Dieu et qui sont corrompus, rendront compte pour eux-mêmes. Ça ne vous regarde pas. Cela, c'est entre Dieu et les magistrats corrompus. Paul, il savait très bien ça. Il était lui-même en prison à cause d'une injustice, à cause d'une condamnation prononcée par des magistrats. Cependant, il ne contestait pas l'origine de leur autorité. Elle vient de Dieu. La raison était divine. Il ignorait cette raison, mais bon, ben voilà, je suis décidé, disait-il, d'être soumis à l'autorité et je vous conseille de faire de même pour vous attirer la bénédiction. Alors j'entends d'ici les gens qui vont me dire oui, mais nous, Michel, on ne peut pas être soumis aux autorités quand même, c'est pas possible, tu vois bien qu'ils manigancent des choses contre nous. Et j'entends toutes vos raisons pour justifier votre façon de penser. Et je ne dis pas que vous avez tort. Mais je dis que ce n'est pas notre rôle, que nous devons nous soumettre, nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes dans ce monde, c'est vrai, mais nous sommes dans un autre monde et on agit autrement. Il y a juste une chose qu'il ne faut pas oublier. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas de ce monde. Et vous avez juste le pouvoir de voter, d'agir bien, de prier pour ceux qui vous gouvernent, c'est tout. Je sais, je vais passer pour un vieux fou, mais c'est comme ça. Donc, je suis sûr que ça en énerve plusieurs, ce que je dis. On va lire dans 1 Timothée 2, voyons, où est-il 1 Timothée ? 1 Timothée 2, 1, 3, écoutez bien ça. Cette parole, attendez, 1 Timothée 2, 1 à 3. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux, les présidents, hein, les dictateurs, pour tous les hommes, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais certains me diront, ouais, mais nous prions pour les autorités, mais ils continuent à faire les fous, ils continuent à nous rouler, ils continuent à nous voler. Vous êtes spoliés, vous êtes volés, vous êtes... Oui, c'est possible. Mais laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, encore moins populaire que ce que je vous ai dit jusque-là ce matin. Comment Dieu peut-il exaucer les prières que l'Église fait monter vers lui pour les autorités de ce monde, alors que l'Église est elle-même sous le jugement de Dieu ? À cause de tous ces scandales, ces médisances, ces hypocrisies, ces non-dits, comment Dieu peut-il exaucer des prières en faveur du monde alors que son peuple prend le corps et le sang de Christ sans discerner le corps de Christ, n'obéit pas à l'ordre établi dans l'Église, fait comme il veut en disant « j'ai raison ». Dieu est un Dieu d'ordre, mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu d'ordre, et l'Église est dans un profond désordre. Reconnaissez-le, reconnaissons-le, et n'attendons pas que ce soit les autres qui changent, mais changeons nous-mêmes. Et pourquoi, en fait, nous ne sommes pas de ce monde, d'accord? Et pourquoi Dieu sauverait-il ce monde de l'abus de pouvoir des politiques, des présidents, des rois et compagnie, alors qu'il a annoncé clairement la déchéance, l'injustice, la corruption qui conduira ce monde à se soumettre à l'Antichrist et que finalement il sera détruit. Pourquoi est-ce que vous voulez que ça change? Pourquoi vous voulez que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas? Voulez-vous que Dieu ne fasse pas ce qu'il a dit qu'il ferait à ce monde? Alors priez pour ce monde, pour que nous vivions en paix, pour que ses enfants puissent vivre en paix. Le reste, mais qui se débrouille. C'est terrible de dire ça, mes frères et sœurs, mais voilà, nous ne sommes pas de ce monde. Quand on veut rentrer dans leurs affaires, on fait ingérence. Et vous voulez pas que Dieu juge son Église avant qu'il juge le monde ? Ben, écoutez, on va lire 1 Pierre 4, 17, 18. 1 Pierre 4, 17, 18. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, donc c'est pas facile, hein, que deviendront l'impie et le pécheur? Pourquoi Dieu ne juge-t-il pas ceux qui gouvernent ce monde et qui précipitent ce monde dans la misère? Parce que Dieu veut d'abord, et par amour pour son peuple, mettre de l'ordre dans sa maison. Dieu veut que ceux qui lui appartiennent et qui font partie des églises, sortent de ces églises pour vivre. Vous le savez peut-être intuitivement, Mais un véritable chrétien ne peut pas s'épanouir dans l'amour, dans la solidarité, dans la paix, dans le pardon, avec un cœur libre de préjugés, ni dans ce monde, ni dans les églises corrompues et malades. Mes frères et sœurs, vous qui venez sur Révélation Bible depuis des années, vous n'avez pas remarqué que mon message ne change pas. Je dis toujours la même chose. Vous n'avez pas besoin de politique, ni de religion, vous avez besoin de la vie, vous avez besoin de vivre paisiblement et en toute honnêteté. Comment vivre dans l'amour avec des gens qu'on ne connaît pas? Si bien les politiques que les gens des églises, vous ne les connaissez pas, vous les connaissez? Non. C'est pas parce que vous vous asseyez à côté d'eux et que de temps en temps vous faites une petite bouffe au McDo que vous les connaissez, non, vous ne les connaissez pas. On connaît les gens quand on vit avec eux. Et l'Église primitive était une communauté, je vous le rappelle. C'est pourquoi Jésus dit expressément « sortez du milieu d'elle ». Alors on lit ça dans Apocalypse 18, versets 2 à 5. Il cria d'une voix forte, disant « elle est tombée, Babylone la grande catholique, la mère de toutes les prostituées ». C'est-à-dire la grande Église, d'où sont sorties toutes ces petites sectes protestantes et catholiques, ceci et cela, tous ces machins, tout ça. C'est la grande Babylone, elle est tombée, elle est devenue l'habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. N'est-ce pas vrai? Pourquoi est-ce qu'ils vont défiler là-bas, tous ces présidents et tous ces rois, à embrasser la bague de ce bonhomme en jupette? Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Je ne rigole pas. Maintenant, disons 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 6, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas, donc il parle des chrétiens, hein, c'est-à-dire à vous, à moi, à des chrétiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles, qu'ils soient du monde ou de l'Église. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, le diable? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. C'est nous le temple, c'est pas ces belles maisons. Et comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ah ! On comprend pourquoi les églises ont interdit la lecture de la Bible pendant des centaines d'années, hein ? Vous voyez ? J'ai pas changé mon message au cours des 52 ans de ma marche avec Dieu. Je ne l'ai pas changé. Sortez de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Marchez avec Dieu. Dieu marchera avec vous. Il vous fera rencontrer des gens qui sont comme vous. Il y en a plein, mais ils souffrent, ils sont malheureux dans leur coin. Et vous pourrez vivre avec eux la foi biblique. C'est pas une utopie, c'est la pure vérité. Je ne vous dis pas, venez me rejoindre. Ah non, surtout pas. D'abord, on n'a plus de place. Je vous dis, marchez avec Dieu, avec le Dieu de la Bible, et il vous conduira parfaitement là où vous devez être, avec qui vous devez être. Pourquoi je ne veux pas que vous veniez nous rejoindre à la communauté? Mais parce que cette décision ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas décider ça. Et je n'ai pas l'autorité pour vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes grand, hein? Vous devez vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans Acte 2, 47, on va le lire. Voyons. Acte 2, 47. Il faut faire référence à la Bible pour trouver ce qui est à faire. Acte 2, verset 47. Tous ceux qui croyaient, verset 44 déjà, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est pas à vous, c'est le Seigneur qui ajoute à son Église. Il y a des gens qui sont dans les Églises, mais c'est pas Dieu qui les a ajoutés. Ils sont venus de leur propre gré, ou ils sont venus poussés par des démons. Mais c'est même pas des Églises, c'est des clubs. C'est le Seigneur qui ajoute à son Église ceux qui sont sauvés. Vous ne choisissez pas, c'est lui. Et d'abord, vous ne l'avez même pas choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Il choisit les gens qui lui obéissent. Alors commencez par obéir, sortez du milieu d'eux, c'est-à-dire de tout ce monde corrompu et ces églises apostates. Sortez du milieu d'eux, des systèmes politiques et religieux, et Dieu vous conduira. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et j'ai des amis qui sont dans la politique, et qui font du bon travail. Voilà, je ne veux pas les juger, les critiquer, les condamner, mais normalement, c'est spécial, hein, c'est spécial. C'est un milieu tellement, tellement dangereux. Enfin voilà, je vous aurai dit ce que j'ai à dire et je prie pour que le Saint-Esprit vous conduise et fasse que les choses changent dans votre vie et que vous réalisiez la volonté de Dieu dans votre vie. Merci Seigneur de garder et de bénir chacun et chacune et de les aider à faire ta volonté qui a été clairement exposée ce matin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Au revoir.